zone buissonnière. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Auditeurs, auditrices, bonjour. Et bienvenue dans les Ondes Buissonnières, votre émission de pépites sonores sélectionnée par la rédaction. Au programme aujourd'hui, un épisode réalisé par Estelle Coquin, nommé « Il faut être fou ». Bonne écoute.
Os consuls de carreira não poderão conceder vistos consulares sem prévia consulta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Les consuls de carrière ne pourront concéder des visas consulaires sans une consultation préalable du Ministère des Affaires étrangères.
Aux étrangers de nationalité indéfinie,
aux étrangers de nationalité indéfinie, contestés ou en litige, aux apatrides, aux porteurs de passeport nansen et aux russes.
B. Aux étrangers, non,
aux étrangers qui ne sont pas en mesure de justifier auprès du consulat de manière satisfaisante le motif de leur venue au Portugal.
C. Aux juifs expulsés du pays de
Lisbonne, le 11 novembre 1939.
Manuel Yass, bonjour.
Bonjour madame.
Je réalise un documentaire radiophonique sur Aristide de Sousa Mendes. Enfin, plus exactement, sur Aristide de Sousa Mendes à travers le travail d'Hélène Le Chevalier.
Oui, Le Chevalier, oui, que je connais bien, voilà. Qu'on a soutenu dès le départ. Et on va mettre en valeur son travail mardi prochain à l'occasion de la cérémonie au consulat.
Je m'appelle Hélène Le Chevalier, je suis artiste. Je suis plutôt peintre et graveuse. Je fais un peu de photos, un peu d'installations avec des matériaux écologiques en général. Je travaille pas mal sur les conflits, sur les guerres. C'est toujours des sujets qui m'ont beaucoup intéressée. La Shoah, j'ai aussi fait des images sur les enfants prisonniers, par exemple. C'est un travail que je fais depuis longtemps. Et il y a quelques années, j'ai appris l'histoire de Aristide de Sousa Mendes et j'ai trouvé que c'était une histoire vraiment hors norme. Donc Aristide de Sousa Mendes était le consul du Portugal à Bordeaux en 1940, un consul tout à fait sérieux, bien sous tout rapport. Et quand en juin 1940, il a vu les rues de Bordeaux rempli de migrants, de réfugiés, de gens qui cherchaient à passer la frontière, il a décidé, après 3 jours de réflexion, de désobéir à son gouvernement, qui lui interdisait de donner des visas. Et il a donné 30 000 visas en 10 jours à toutes les personnes qui se présentaient sans aucune discrimination. Je suis très intéressée, admirative de ces personnes qui peuvent faire un geste comme ça, qui remet toute leur vie en cause. Je trouve ça important en ce moment de montrer que des gens peuvent faire un acte de désobéissance très fort. Et j'ai réfléchi à un premier projet que j'ai tardé à mettre en route et je me suis décidée à le faire il y a maintenant bientôt 2 ans. J'ai eu envie de faire un travail qui reprenne ce geste de faire 30 000 fois la même chose. Et donc j'ai choisi de dessiner 30 000 cailloux, ou de faire dessiner 30 000 cailloux pour chaque signature qu'il avait posée. Et pourquoi j'ai pris les cailloux? Parce qu'en fait, dans la tradition juive, on pose un caillou. Quand on va sur la tombe de quelqu'un, on pose un petit caillou. Et donc voilà, j'ai repris cette tradition-là, donc on pose un caillou. En hommage à Aristide de Sousa Mendes.
Thank you.
J'ai découvert cette histoire à Bordeaux il y a 34 ans, par hasard, par un ami à moi qui était un très grand résistant, qui était à Paris, qui était mon ami Alvaro Morna, il s'appelait. Et lui, il a découvert à Paris, en faisant une émission de radio, qu'une ville canadienne avait rendu hommage au consul José Mendes. Et à partir de là, on s'est mis, il y a 34 ans, à chercher. Il y avait un déni complet à Bordeaux de cette question. Les premières réactions des gens, c'était de dire « C'est quoi cette histoire? Ça n'a jamais existé. C'est quoi cette histoire de con ?» Nous avons, 3 ans plus tard, reçu des documents venant des États-Unis et venant d'Israël. Parce que l'Aristide avait été fait juste parmi les nations en 1966. Donc nous avons constitué un dossier, on a traduit tous les documents venant d'Israël, des États-Unis, du Canada. Et donc la promotion de l'image de Sosa Mendes, la première fois qui a été faite en France, c'était au moment du procès Papon. L'action qu'on a faite sur le consul Sosa Mendes va être un élément important dans le débat au procès. Parce que la thèse de Papon, il dit « moi je ne savais rien », alors que tout le monde savait ce qui se passait. Le premier drame de la guerre, ça a été l'occupation de la Pologne. Et ensuite, tous les pays du nord de l'Europe et de l'est de l'Europe ont tombé comme un château de cartes. Et le discours des autorités françaises, c'est de dire « nous, on est prêts ». Donc beaucoup de gens sont venus en France du fait du discours des autorités françaises en disant « nous sommes capables de résister ». À l'invasion allemande. La seule porte de sortie de tous ces millions, 9 millions de personnes qui fuyaient l'avancée des troupes nazies, c'était le sud-ouest et le Portugal. Donc c'est dans les zones côtières du Portugal que ces réfugiés vont être installés. Salazar, il les a accueillis, mais il ne voulait pas les garder. C'est du Portugal qui partaient les bateaux d'abord vers l'Angleterre, ensuite vers l'Afrique du Nord, ensuite vers l'Amérique latine, vers le Brésil et vers les différentes zones. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1939, le Portugal était un pays neutre, mais une grande partie de ceux qui étaient autour de Salazar étaient pro-nazis. Le gouvernement portugais interdisait à ses consuls et à ses ambassadeurs de délivrer des visas à des personnes qu'ils considéraient indésirables au Portugal. Qui étaient les indésirables selon la circulaire? Donc c'était les Juifs, c'était les détenteurs de passeports Nansen, ceux qui avaient été expulsés dans leur pays, c'était des gens qui n'avaient pas les moyens de subsister, c'était les Russes et c'était les Tziganes. Donc c'est à cette circulaire raciste de 1939 qu'Aristide Sosemans va désobéir. Le premier visa interdit, non conforme à la circulaire, date de 21 novembre 1939.
Qu'est-ce qui me touche particulièrement dans cette histoire? Je dirais que peut-être ce que je trouve très étonnant, c'est le revirement, en fait, cette espèce de prise de conscience très brutale qu'il a eue. Et ça, je trouve ça très, très touchant.
C'est le 16 et le 17 juin, après que Pétain ait dit « j'ai capitule », que Aristide va comprendre que les carottes sont cuites. Il y a un autre élément important, c'est le rabbin Kruger. Le rabbin Kruger était polonais. À cette époque-là, à peu près la moitié des réfugiés vivaient dans la rue. Et 85 000 personnes qui vivaient là, à ciel ouvert. 85 000 personnes qui vivaient dans la ville, parce qu'il n'y avait plus de place nulle part. Et donc la rencontre entre Aristide et le rabbin Kruger va se passer à Bordeaux, à la place des Quinconces. Aristide lui donne un visa le 16. Et Kruger lui dit, mais monsieur le consul, c'est pas moi qu'il faut sauver. C'est tout mon peuple, vous voyez bien, devant vos fenêtres, des milliers d'hommes et de femmes sont dans la détresse. Moi, je ne veux pas laisser mes frères ici mourir et partir pour m'en privilégier. C'est pas moi qu'il faut sauver, ma femme et mes enfants. C'est tout mon peuple. Il Aristide et lui dit, mais je ne peux pas faire ça. Ce que vous me donnez est impossible. Et donc, c'est ce dialogue entre Kruger et Aristide qui va faire en sorte qu'Aristide va comprendre la dimension du drame qui se joue.
Et là, Sousa Mendes va s'enfermer dans sa chambre. Et quand il sort, au bout de 3 jours, il a les cheveux blancs, qui ont blanchi en fait en 3 jours. Il dit, dorénavant, je signerai tous les visas que je pourrai. Donc il y a vraiment un choc dans sa vie. Il y a quelque chose de vraiment brutal, quoi.
Sousa Mendes, c'est un personnage qui est tout à fait un personnage de film. Tu vois, aujourd'hui, tu te lèves et tu dis, bon, je suis fonctionnaire du gouvernement portugais et je fais tout ce qu'elle me dit. Mais 2 jours après, elle dit le contraire. Elle va dire, non, je suis fonctionnaire, mais je n'oublie pas que je suis aussi humain et je ne peux pas laisser cette jeune lui faire quelque chose. Et cette transformation, ça passe des jours.
Il a eu presque une espèce de, comment dire, de choc. Mais nous savons aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de témoignages, que pendant ces 3 jours, il a continué à délivrer des visas. Ce qu'Aristide, jusque-là, avait délivré quelques centaines de visas aux uns et aux autres. Il délivrait des visas par-ci et par-là, avec parcimonie. Et donc, le 17, il dit à sa femme, ses enfants et ensuite à tout le monde, à partir de maintenant, étant donné les circonstances, je donnerai des visas à qui me le demande. Il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus rien. Donc, je n'obéis plus à rien qu'à ma conscience.
C'est quand même cette rencontre avec ce rabbin qu'il décide à violer les règles de son pays, à désobéir et à se lancer dans ce projet, quoi. Je pense que le fait quand même qu'il soit catholique a dû jouer.
Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Pendant 3 jours, cet homme catholique mûrit la décision qui va faire basculer sa vie. Je devine ses débats intérieurs. Faut-il vraiment aider tous ces gens sur les routes? Faut-il enfreindre les consignes de l'État qu'il représente? Et que va devenir sa famille? Cet homme a suivi sa conscience éclairée par sa foi. Je suis chrétien et comme tel, je crois que nous devons faire en sorte que ces réfugiés ne soient pas exterminés. Mon désir est d'être avec Dieu contre l'homme plutôt que d'être avec l'homme contre Dieu.
Il a pris la décision de signer. Il s'est fait aider par des personnes de l'ambassade, par son fils. Je pense que le rabbin aussi a aidé. Ils ont commencé à Bordeaux. Évidemment, au bout d'un moment, il n'y avait plus de formulaire. Donc, il a continué visiblement sur papier libre, sur tous les papiers qu'il trouvait.
Bordeaux est bombardé dans la nuit de 19 au 20 juin. Une grande partie de la population de Bordeaux vont fuir vers où ? Vers Bayonne, vers Andaille. Donc, Aristide, il prend sa bagnole, il s'en va au Pays Basque. Il a des informations comme quoi le consul du Portugal à Bayonne, parce qu'il y avait un consulat à Bayonne, le gars étant démasqué par les événements, a fermé le consulat.
Et donc pareil, il arrive au consulat de Bayonne, il incite les employés qui sont là à signer, il signe aussi beaucoup. Il y a toujours des histoires d'escaliers, parce que dans tous ces bâtiments, il y a des escaliers avec les gens qui montent, qui descendent.
Il y avait un escalier en bois. Tout le monde a eu peur que l'escalier s'effondre par le poids des réfugiés qui cherchaient à accéder. Donc il a dit, descendez-moi une chaise, une table en bas dans la cour. Il a délivré des visas dans la cour et dans la rue.
Après, il continue jusqu'à Hendaye. On sait qu'en parallèle, il y a des télégrammes qui arrivent du Portugal en lui disant que la faut arrêter. Après, on sait qu'il y a la police qui traverse l'Espagne pour venir le chercher. Donc il y a aussi tout un... Il y a une dimension presque cinématographique aussi dans cette histoire.
Le 23 juin, il est convoqué à Hendaye par l'ambassadeur de Portugal à Madrid, qui s'appelait Teotônio Pereira, qui a été vraiment un des collaborateurs sans limite du président fasciste Salazar. Et l'ambassadeur dit au consul, ce que tu es en train de faire est un acte de folie. Tu es fou. Il n'y a qu'un fou qui peut faire ça.
On pourrait vraiment en faire une fiction, tellement c'est incroyable. Il y a le très beau moment aussi où il est à Hendaye et comme le gouvernement Salazar a fait savoir que les visas n'étaient pas valables, les gens sont arrêtés à la frontière.
Et c'est là où il a une idée lumineuse, il a dit, s'ils ne peuvent plus passer ici, on va trouver une solution. Il y avait à côté, 8 km d'Hendaye, il y avait un col où il n'y avait pas de téléphone. Et donc Aristide s'est dit, peut-être qu'en allant là-bas, vous pouvez encore être sauvé.
Et donc lui prend sa voiture et emmène, en allant au pas, il emmène tout le monde à un autre poste frontière en disant aux douaniers, je vous garantis que ces visas sont bons puisque c'est moi qui les ai signés. Et il arrive encore à faire passer des gens à ce moment-là. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de rebondissements dans une période très très courte, quoi. C'est assez étonnant.
Le consul Sousa Mendes a été condamné par son gouvernement pour désobéissance. Le 24 juin 1940, il a été démis de ses fonctions, mis à la retraite anticipée. On lui a coupé 70% de sa retraite, de ses moyens. C'est comme ça qu'il va mourir dans la misère. Ses enfants vont être obligés d'émigrer parce qu'ils n'avaient plus les moyens de faire vivre sa famille. La première réhabilitation va s'opérer aux États-Unis grâce à ses enfants. Et ensuite, en 1966, Aristide Sosa Mendes va être honoré du titre de juste parmi les nations grâce au rabbin Kruger. Ensuite, nous ici, en 1987, on va créer le comité national français en hommage à Aristide Sosa Mendes. Et demain à 11h, le consul Aristide Sosa Mendes va rentrer au Panthéon national au Portugal avec les honneurs du peuple portugais et de la nation portugaise.
Ces actions démontrent qu'il y a des valeurs plus profondes et plus importantes qui surmontent les notions de nationalité, de race, de religion, de couleur de peau. Aristide est la preuve que les actions d'un homme peuvent faire
la différence. Merci beaucoup de votre présence. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'on revient à l'humanisme et à l'universalisme. Et en ce moment, j'ai l'impression que c'est des notions qui se perdent et qu'il faut... qu'il est important de les mettre en avant. Et pour ça, si je fais mes petits cailloux dans mon coin, comme un ermite, ça n'aura pas du tout le même sens que si ce projet sert vraiment en premier lieu à parler avec des gens, à faire connaître cette histoire et à impliquer les gens dans un geste.
Alors vous allez vous asseoir et je veux vous expliquer l'histoire.
J'ai semé quelques cailloux avec
moi. J'ai voulu faire ce projet qui est un projet collaboratif où donc je fais beaucoup d'ateliers pour justement amener la discussion sur qu'est-ce que c'est que prendre ce risque, comment on peut en arriver à faire ce type de geste, est-ce que ça a des résonances aujourd'hui. Et c'était tout ça qui m'intéressait.
c'est assez simple. On prend une feuille, on fait un caillou au milieu de la feuille.
Alors des fois, les gens font un seul caillou. Et puis, en fait, comme souvent, ils sont plusieurs. Il y en a un qui dessine plus vite que les autres, donc il en fait un deuxième. Du coup, ben, les voisins continuent. Et de fil en aiguille, ils disent « Ah, mais en fait, c'est vachement agréable de dessiner, d'être assis là, en discutant, en dessinant.
Mais oui, dans mais son moi, jardin. J'ai souvent compris, ça marche aussi. Hein.
Ouais, je sais pas. Je dessine comme un enfant, d'ailleurs, encore. Comme un enfant de 3 ans, je sais pas dessiner. »
Beaucoup de gens n'ont pas dessiné depuis leur enfance, en fait. Et là, de se retrouver assis à plusieurs à dessiner, il y a aussi une paix qui s'installe souvent, une espèce de... Oui, de quiétude qui s'installe quand on est comme ça, à plusieurs à dessiner.
Il faut se lâcher. Et puis j'ai mis de la couleur, parce que j'adore la couleur.
Les gens s'arrêtent en général, comme ça, un peu curieux. Bon, il y a une personne sans rien dire qui va s'asseoir, qui va commencer à dessiner. Et puis on ne sait pas trop pourquoi, donc 2 minutes après, elle dit « Ah ben moi je fais un cours de dessin amateur tous les mardis soirs » ou alors elle va dire un truc beaucoup plus personnel, du genre « Ah ben mon père, il a été caché » ou...
Effectivement, c'est ce qu'on pose sur une tombe quand on va voir nos disparus. Moi, malheureusement, ma famille a été déportée et je n'ai pas de tombe.
J'ai eu plusieurs fois des histoires très fortes qui ont été racontées. Et si, à ce moment-là, autour de la table, il y a d'autres gens qui sont en train de dessiner comme ça pour le plaisir ou pour la bonne cause, cette confrontation entre des témoins ou des enfants, de survivants, etc., et des personnes lambda, c'est des moments qui sont très, très forts. Je propose de rajouter le nom de quelqu'un à qui il pense, qui sauve des vies actuellement ou qui en a sauvé. Et beaucoup de gens me disent, mais quelqu'un qui sauve des vies en ce moment, alors là, je vois personne. C'est quand même assez surprenant.
Vous me pensez à des activistes qui ont combattu contre des causes comme Malcolm X ou Martin Luther King ou encore Marsha P. Johnson, qui n'ont pas, comme Aristide, sauvé directement des vies, mais par leur action, par leurs paroles et par leurs actes, ils ont permis à nos générations maintenant de pouvoir vivre dans un monde plus juste, on va dire.
Et du coup, en parlant ensemble, ils réfléchissent à ce que ça veut dire en termes de désobéissance ou d'obéissance, de devoir. On m'a beaucoup parlé des soignants qui font leur devoir et en même temps, on m'a aussi parlé des personnes qui aident les migrants qui font de la désobéissance. Mais voilà, pour moi, c'est très important en ce moment de faire parler les gens de ces notions de résistance, de liberté, dans la pensée de l'autre.
Je suis aussi un peu émue parce que c'est comme si on rendait hommage à Aristide de Sousa Mendes en fleurissant un petit peu sa tombe.
Ouais, c'est admirable ce qu'il a fait. C'est vraiment, je sais pas, c'est incroyable. C'est pas tous les jours qu'une personne désobéit à son patron.
Ben, cet homme a désobéi, mais il a désobéi parce que il trouvait injuste ce qui se passait.
Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas cette même ouverture d'esprit que Aristide a pu l'avoir à l'époque.
Ben, c'est un ambassadeur de la paix, c'est injuste.
Et juste, c'était plus une démarche individuelle. La sienne, elle était plus institutionnelle, donc plus risquée.
C'est pas facile d'être courageux quand on risque sa vie, finalement. Parce que c'est ça, quand même, l'enjeu.
Sa posture en tant qu'être humain et sa position et le courage qu'il a eu de faire ce qu'il a fait. Moi, je me demande, est-ce que dans sa situation, je serais capable de faire une chose pareille? Probablement pas. Hein.
Au moins, c'est le signal que quand on est, disons, un fonctionnaire, on n'est pas obligé de tout accepter.
Je pense qu'il faut qu'on s'inspire de lui, qu'on arrive à toujours rester fidèle à nos valeurs, même si on va à l'encontre de ce que la société peut nous dire.
C'est quand même une personne tout à fait remarquable, dont beaucoup, pas seulement des jeunes, pourraient s'inspirer quand même.
C'est des gens qui regardent et écoutent la transformation qui se passe dans la société.
Je pense qu'on est avant tout tous humains, au-delà des pays d'où on vient, et que ce serait... Et que ce serait beau s'il y avait plus de personnes comme lui qui avaient surtout ça en tête.
En juin 2020, ça faisait 80 ans, et donc j'ai décidé de faire des ateliers sauvages à Bordeaux, Bayonne et Hendaye, aux dates exactes où il l'avait lui-même signé. J'ai un grand panneau qui explique le projet, Je dessine et des gens s'arrêtent. C'était assez intéressant d'être assis sur les marges d'une église ou sur un muret en pleine rue et de voir comment ça se passe, le rapport avec les gens quand tu es dans cette situation-là. Et c'est quand même pas très facile. Autant moi, habituellement, je fais de la peinture gestuelle, donc je travaille beaucoup dans la rapidité, dans le... Et là, au contraire, je suis dans la répétition qui, des fois, paraît presque infinie. Il y a des jours, je me dis, oh là là, ça va être bien compliqué de continuer une semaine de plus, et hop, ça repart. Donc j'en fais tous les jours. Tous les jours, je fais quelques dizaines de cailloux. Évidemment, au bout de 15 000 ou 20 000 cailloux, j'ai un peu une idée de comment ça se dessine. Et après, je fais des variations. Là, je vais le déplacer dans la feuille. Je vais le réduire, l'agrandir. Là, j'ai envie d'aller vers du noir et blanc. Je remets du crayon de couleur. Et c'est comme un chemin, en fait. J'utilise toutes les techniques sèches. Crayon, feutre, pastel, etc. Je fais un peu de peinture, mais peu, parce que ce papier gondole quand il est mouillé. Et j'ai fait aussi de grandes séries de monotypes. Quand je suis en voyage, quand je me promène, quand j'aime bien pouvoir aussi dessiner. Donc je choisis des livres qui parlent de sauvetage ou de choix. Et je dessine sur ces livres. Je fais aussi des petits carnets, mais j'aime bien avoir toujours sur moi de quoi dessiner des cailloux. Il y a eu des moments un peu difficiles quand même, en fait. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à dessiner ces cailloux, à faire ce travail. Et il y a un côté marathon qui peut des fois être pesant. En même temps, d'avancer sur ce chemin et d'arriver à faire comme ça un projet à si long terme, je trouve ça intéressant. J'étais contente et je suis contente de m'être attachée à ça.
Mesdames et messieurs, en rendant hommage et en honorant les justes, les résistants, les combattants de la liberté, nous accomplissons un acte de mémoire et une action de transmission envers les nouvelles générations. Je salue les enfants et les jeunes ici présents, afin que les valeurs qui fondent notre démocratie, notre République, notre vivre ensemble puisse être exercé librement.
En fait, j'étais en contact avec le comité Sousa Mendès depuis quasiment depuis le début du projet. Et puis là, on a pu se rencontrer mieux. Il y a eu un événement au consulat, donc c'était très intéressant de croiser toute cette équipe. Je les trouve touchants parce qu'ils sont... Ils se battent depuis longtemps, ils ont...
Et comme ça, depuis 34 ans, on essaie de faire vivre la flamme de la mémoire. Et moi, je suis là-dedans. Transmettre la flambeau, la passion, les valeurs, la liberté et la démocratie, c'est quelque chose qu'on défend tous les jours. Il faut que nous fassions notre boulot de défendre les valeurs de la République et les valeurs de l'humanité, c'est tout.
Aujourd'hui, plus que jamais, c'est important d'honorer Aristide Sousa Mendès.
Ce qui s'est passé en 1940 a été un drame. Ce qui se passe aujourd'hui est un drame. Et le drame des réfugiés est un drame permanent de l'histoire de l'humanité.
Je souhaite réaliser une installation vidéo. Et cette installation vidéo permettra après d'avoir une trace et de continuer à faire passer ce message par le biais de quelque chose qui sera visible peut-être, je ne sais pas, dans des musées, dans des festivals, mais où l'histoire continuera à être découverte et j'espère que ça continuera à avoir de l'impact.
Ce qui a guidé ma conscience de fonctionnaire fut mon esprit d'humanisme. Pelé le me traitait de fou alors que l'Europe s'effondrait. Faut-il donc être fou pour être un homme juste? Mon désir était de sauver tous ces gens condamnés, dont la détresse était indescriptible. ces milliers de personnes, dehors de jour comme de nuit, attendant leur tour devant le consulat. La tâche était immense.
Vous venez d'écouter Il faut être fou. Production, prise de son, réalisation, musique et création sonore, Estelle Coquin. Avec les voix d'Hélène Lechevillier, artiste, Manuel Dias, vice-président du comité Sousa Mendes et découvreur de cette histoire, Mgr Jean-Paul Jam, archevêque de Bordeaux, et Mario Gomes, actuel consul du Portugal à Bordeaux. Je remercie pour leur aimable participation tous ces anonymes qui ont bien voulu témoigner, ainsi que José da Silva, Gabriel Drouet, Marianne Mazot pour le chant final et Mario Gomes qui a bien voulu jouer pour moi le rôle d'Aristide de Sousa Mendes.
Les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées. Yes.